Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Je reçois aujourd'hui à Canal Académie Monsieur François Taillandier. François Taillandier est romancier. Il a obtenu le prix Roger Nimier pour Les Nuits Racines et le Grand Prix du roman de l'Académie française pour Anielka. Il a également consacré des essais à Louis Aragon et Georges-Louis Borges. Bonjour François Taillandier.
Bonjour.
Après des études de lettres modernes, vous avez été quelque temps professeur, mais très vite, vous avez compris que l'écriture était votre vocation. On n'est pas écrivain, dites-vous, parce qu'on domine l'expression et la langue. On est écrivain parce qu'on a un problème avec elle. François Taillandier, il semble que ce soit ce problème, ce malaise, ce cauchemar qui vous ait poussé à écrire cet essai, Une autre langue, paru cette année chez Flammarion. Vous allez nous en parler. Mais avant tout, voudriez-vous nous dire quel est le sens, l'essence peut-être, que vous donnez au titre que vous avez choisi, Une autre langue?
Oui, vous sous-entendez en effet que ce titre peut se lire de plusieurs façons. Il y a un certain jeu sur les mots. L'essentiel ici, pour commencer, peut-être de dire que la première chose qu'il faut y voir, c'est que c'est la langue elle-même qui est autre que nous. Je crois que c'est de là qu'il faut partir. J'entends par là que le petit enfant, lorsqu'il apprend à parler, reçoit la langue de ceux qui l'entourent.
Qui est celle de sa mère.
Qui est celle de sa mère. Il la reçoit, elle lui préexiste. Bien. Et cet apprentissage spontané, nous le savons, ne suffit pas. Quand il va aller à l'école, il va découvrir qu'il faut revenir sur cette langue, qu'il faut l'analyser plus en profondeur, que les écrivains qu'il apprendra à lire ne la parlent pas comme il l'entend dans son entourage, pas de la même façon. Il va continuer à découvrir que la langue, c'est quelque chose d'autre que lui, que c'est un domaine qu'il faut explorer. Et si nous y prêtons attention, nous comprenons bien que dans l'ensemble de notre vie, nous n'arrivons jamais à connaître toute notre langue. Nous ne savons à peine où elle finit. Et je ne parle même pas, évidemment, de l'apprentissage
des langues étrangères
auxquelles nous pouvons être amenés. Voilà, c'est, je crois, un des points de départ. La langue est autre.
Alors, la langue est autre. Mais la langue moderne nous pose problème. Alors parlez-nous de ce cauchemar que vous aviez fait.
Je me suis amusé à me souvenir de ce rêve bizarre où j'avais l'impression d'être parmi une foule de gens qui ne parlaient plus la même langue que moi. Je dis d'ailleurs que je crois profondément qu'on est écrivain parce que l'on a un problème avec ça, avec l'expression, avec la parole. Je n'aurais pas parlé de cet aspect qui m'est strictement personnel si je n'avais pas le sentiment que cela recoupe aujourd'hui une évolution sociologique, une réalité sociologique.
Que nous sommes nombreux à éprouver ce malaise, en fait.
Voilà, je dis quelque part dans mon essai que je vois encore des lettrés, mais que je vois rarement des lettrés heureux.
Des lettrés heureux.
Je crois que aujourd'hui l'écrivain, aujourd'hui même l'enseignant, etc., les gens qui ont un rapport fort avec leur langue, avec l'héritage littéraire qu'elle véhicule et qu'elle comporte, ont le sentiment que les références à travers lesquelles ils existent, à travers lesquelles ils s'expriment, sont de moins en moins reçues. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus un nombre très grand de gens pour qui toute cette transmission ne se fait plus. Donc il y a ce sentiment de la fin du monde commun, ce sentiment d'être isolé dans un monde qui s'éloigne d'une certaine façon. C'est-à-dire ce qui se passe, je crois, aujourd'hui autour de nous, c'est que cette corrélation traditionnelle qu'il y avait entre
cette alliance
entre l'institution sociale, la police, pour parler grec, et la langue, ne va plus de soi. Et quelque part, l'alliance a été rompue, ou en tout cas, elle est en train de se disloquer.
Oui, vous nous parliez de Paul Valéry, et de Paul Valéry à qui on avait demandé de composer les inscriptions gravées aux frises du palais de Chaillot.
Oui,
c'est toute une
époque.
Un
épisode très symbolique, bien sûr, mais hautement symbolique d'une époque, en effet.
Oui, bien sûr. De Jules Ferry aussi.
Oui. Mmh.
Alors, cette époque n'est plus. Il faut pourtant rappeler que cette langue qui nous semble menacée, je ne vois plus de lettres heureux, disiez-vous, n'est elle-même qu'une forme historique contingente, une création délibérée, et que la forme sous laquelle nous est parvenu cet héritage ne date en fin de compte que d'un siècle à peine.
Oui, disons qu'il y a une petite part de provocation dans cette façon de dire les choses. Je crois que c'est parfois nécessaire pour rappeler certaines évidences qu'on ne perçoit plus. La langue française a été, en effet, comme vous le disiez, une création délibérée. Bon, elle a des points de départ qui sont un peu les accidents de l'histoire, n'est-ce pas ?
Des jalons bien marqués.
Mais il faut se souvenir qu'à différentes époques, elle a fait l'objet d'une intervention très précise du corps social. Bon, il y a évidemment le XVIe siècle, ce que j'aime appeler l'époque des deux François, François Ier et François Rabelais. C'est vraiment l'époque où l'on prend conscience du français comme langue et où, en particulier, le pouvoir royal va se soucier de lui donner un statut. C'est l'édit de Villers-Cotterêts, c'est la création du dépôt légal, du Collège de France, etc., de l'imprimerie nationale d'ailleurs. Au siècle suivant est instituée l'Académie française, oui, dont la mission est précisément d'apporter un certain ordre dans la langue, de s'écarter des jargons, de s'écarter des parlers locaux, de définir un bon usage et surtout un usage commun. N'est-ce pas ? C'est ça qui est important, je crois,
dans l'entreprise académique. Un souvenir très vif ici.
Bien sûr. Au XIXe siècle, ce travail va être repris, prolongé. La République, la Troisième République, se soucie d'offrir cette langue en partage à un grand nombre de gens. Et c'est là qu'il faut bien voir la façon dont, finalement, la langue française peut être redéfinie dans son lien avec la société et le monde. Après tout, au XVIIIe siècle, ce français construit, c'est le français évidemment des écrivains, c'est le français des salons, c'est le français des cours, c'est le français de la diplomatie. Eh bien, c'est cette même langue que, d'une certaine façon, la République va donner une nouvelle vocation en faisant un objet d'instruction pour tous et en faisant par conséquent le ciment même de l'institution républicaine. Bon, pourquoi faire ces rappels ? Parce que je crois que ce qu'il importe de dire et de bien comprendre, c'est que le français a dû subir des mutations. Ça n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui a existé de toute éternité. C'est quelque chose qui a été construit. C'est une construction qui a de la valeur, mais qui parfois doit affronter certaines mutations. Et je pense que nous entrons dans l'époque où le français doit redéfinir ainsi sa position par rapport à la vie sociale et par rapport au monde extérieur. Et l'inquiétant n'est pas qu'il y ait une évolution, même si, et là, c'est le cri du gâchis au passage, l'inquiétant serait surtout que nous n'eussions pas le souci de reconstruire quelque chose qui fonctionne, si je puis dire, dans la modernité.
Pourquoi sommes-nous malheureux alors ? Tout est bien. Il est normal qu'il y ait un changement.
Il est normal qu'il y ait un changement. Nous le subissons. Je crois que c'est ce qui est aujourd'hui frappant, c'est que nous le subissons. Nous voyons se faire la fracture. Mais encore une fois, malheureusement, les élites, en particulier les princes qui nous gouvernent, non seulement n'ont pas témoigné d'un très grand souci de réduire cette fracture ou d'y répondre, mais je me demande même si d'une certaine façon ils ne l'ont pas provoqué. Il y a eu quand même une véritable démission des élites politiques face à l'enseignement de la langue, de la littérature et de tout cet héritage-là. Et ça n'est pas tout à fait nouveau, ça a déjà 3 ou 4 décennies, me semble-t-il.
Oui.
Donc la question est de dire, il faut maintenant réinstituer quelque chose de neuf, parce que le monde a changé entre-temps.
Le monde a changé. Le monde a changé, je ne sais plus quel est mon pays, je ne sais plus où est le pouvoir, je ne sais plus quelle est mon histoire, je ne sais plus très bien dans quelle langue je vais m'exprimer au sein de l'Europe. C'est donc une redéfinition est nécessaire.
Oui, on peut le dire ainsi. Alors, il faudrait d'abord, évidemment, mais ce serait peut-être l'objet de la suite de cet entretien, reprendre acte de tout ce qui a véritablement changé autour de nous.
Nous allons suspendre notre échange pour aujourd'hui, si vous le voulez, pour le reprendre au cours d'un second entretien dans un prochain magazine. Il y a encore beaucoup à dire.
Eh bien, je vous en remercie. Thank you.